Vous êtes sur RTL.
La parole sur RTL.
Christelle Robière.
Et c'est à vous jusqu'à 14h, vous avez fait le 32-10. Vous prenez la parole sur RTL. Bonjour François.
Bonjour.
Vous vouliez revenir sur les manifestations qui ont eu lieu hier contre les restrictions sur le pass sanitaire?
Tout à fait, et pour lequel j'étais un peu choqué de l'attitude et de la réaction de certains.
Eh bien, on va y venir dans un instant. Le rappel des titres pour l'instant. 11 départements de l'Est en vigilance orange. Le Grand Est est inondé, en particulier la Meurthe et Moselle. 80 cm d'eau dans les rues de Longuyon. À Bar-le-Duc, la médiathèque a été inondée. Côté SNCF, il n'y a pas de train entre Thionville et le Luxembourg. En Allemagne, c'est catastrophique. 19 personnes ont perdu la vie dans la région d'Arweiler. 70 sont encore portées disparues. Angela Merkel, la chancelière allemande, se dit bouleversée par ces intempéries. En Belgique, c'est la ville de Liège qui a les pieds dans l'eau. Perquisition sur le Tour de France. Les gendarmes ont réveillé cette nuit à Pau, dans leur hôtel, les membres de l'équipe Bahreïn. Ils ont saisi du matériel et des documents. Le don d'organes élargi. Les personnes infectées par le VIH peuvent désormais donner leurs organes à des personnes qui vivent elles aussi avec le sida. C'est un espoir pour de nombreux patients séropositifs. Prudence face à la remontée de l'épidémie de Covid en Europe. Les Français non vaccinés devront désormais présenter un test PCR de moins de 24 heures à leur retour d'Espagne ou du Portugal. Jean Castex installe aujourd'hui le comité interministériel de la laïcité. Il remplace l'observatoire de la laïcité très critiqué, et doit entériner un plan d'action en 17 mesures avec par exemple la formation de tous les agents publics ou encore le déploiement de référents laïcité dans les
administrations. Et les petites histoires olympiques. Jean-Michel Rascol sur RTL.
Chaque jour dans RTL Midi cet été, nous vous racontons des épisodes marquants de la grande histoire des Jeux. En 2004 à Athènes, pour la première fois, le budget sécurité dépasse le milliard d'euros. La France a ses propres agents. Ils sont chargés d'accompagner les athlètes dans leurs déplacements. Mais le chef de mission, Jean-Michel Brun, va devoir gérer une demande incongrue de la part de la cycliste Jeannie Longo. Jean-Michel Rascol.
Au-delà de la fête populaire, les Jeux d'Athènes sont placés sous très haute surveillance. Des attentats viennent de se produire à Madrid et le CIO a reçu des menaces précises. D'ailleurs, l'équipe de France Olympique est encadrée par 25 policiers du raid sous la responsabilité du chef de mission, Jean-Michel Brun. Plusieurs athlètes français ont pourtant préféré vivre à l'extérieur du village olympique. C'est le cas de Jeannie Longo, la grande dame du cyclisme tricolore. Jean-Michel Brun.
Jeannie Longo avait fait le choix d'une maison avec une piscine pour pouvoir s'entraîner. Cet espace de liberté, on sentait qu'elle en avait besoin. À Olympie la Sacrée, eh bien, Jeannie, c'est un peu la déesse du vélo. Et donc tout le monde la respecte, tout le monde la regarde comme une personnalité hors du commun.
Jeannie repasse régulièrement au village des athlètes jusqu'au jour où elle a une demande particulière.
Elle vient me voir, elle me dit « Jean-Michel, Monsieur Brun, j'ai vu une affiche, il y a un marché local sûrement typique, et moi, j'ai envie d'avoir des fruits frais, j'ai envie d'avoir... Et puis des patates !» Des patates avec la terre qui colle. J'ai dit oui, mais au village, il y a le restaurant, il y a les pommes de terre, j'ai vu qu'il y en avait de toutes sortes, de toutes... Oui, mais tu t'as bien compris, des patates avec la terre qui colle. C'est-à-dire un vrai produit naturel. Bon, bah écoute, il faut qu'on mette ça en œuvre parce que, visiblement, la route dédiée n'est pas répertoriée à ce village. Donc ce que je te propose, c'est que je vais téléphoner à mon correspondant du raid et une équipe en voiture va venir... Donc tu me dis à quelle heure tu pars et je m'assure que cette équipe soit prête à tes côtés. Nous nous retrouvons, le vélo part, la voiture démarre à une distance raisonnable et je reçois un petit appel un peu plus tard. Mon correspondant me dit « Ben Jeannie vient de quitter la route. Pour un chemin sous bois, le véhicule ne peut plus suivre. »
On a perdu. Jeannie en fuite, panique à bord, Jean-Michel attend son retour devant la porte de sa maison.
Une heure après, arrive Jeannie. Avec quelques provisions. Effectivement, elle me montre fièrement, elle avait acheté quelques patates. Alors, je ne me rappelle plus si la terre collait toujours à l'endroit là où elle l'escomptait. Elle dit, tout va bien, avec un sourire malicieux. Et c'est là, d'ailleurs, je me rappelle, où je dis au policier, c'est que je dis, voyez, Jeannie a une grande qualité. Ben, c'est celle de surprendre. Chez les Longo, monsieur, que le coq chante ou non, le jour se lève et la roue tourne.
Quelques jours plus tard, Madame Longo prendra la 10e place dans la course en ligne sur le bitume athénien. À 45 ans, elle ne mettra pas pour autant un terme à ses échappées olympiques.
Une chronique signée Jean-Michel Rascol et Spencer Clairefeuille pour la mise en onde.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Rebière.
Plus de 19 000 personnes, d'après le ministère de l'Intérieur, ont donc manifesté hier un peu partout en France, à Lyon, à Paris, à Lille ou encore à Annecy, contre le pass sanitaire. François, donc vous comprenez pas trop ?
Au-delà de ne pas comprendre, je respecte le fait de manifester. On est en démocratie, on a donc le droit de manifester. Il faut aussi rapporter ça, ces 19 000, aux 33 millions de personnes vaccinées. Mmh. Là aussi, remettons ça en proportion. Et puis maintenant, j'espère simplement pour que tous ces gens qui sont vaccinés n'ont pas été frappés dans leur famille, dans leur chair, par des gens qui sont décédés, qui ont été hospitalisés sur des longues durées, qui ont eu à souffrir dans leur chair du Covid. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une vraie conscience collective qui dépasse au-delà du simple respect de notre liberté individuelle, une conscience collective pour protéger nos populations, nous permettre de vivre normalement, de retravailler normalement. Je vais organiser, moi, une manifestation en septembre. Je n'ai pas le droit, moi, de faire prendre le risque à qui que ce soit qui participera à cette manifestation en septembre. Donc, à un moment, il faut avoir conscience collective et puis dire en même temps et de plus en plus comparer notre pays à une dictature quand on a juste le droit de manifester et aucune de ces manifestations n'a été interdite, eh bien on est quand même en liberté. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter de comparer notre pays à une dictature, il faut avoir cette conscience collective et puis se dire à un moment que c'est une vraie cochonnerie et qu'on ne peut pas, je n'ai pas le droit, moi, de risque le taux de...
Ah, on vous perd, François, on vous perd. Est-ce que vous êtes toujours parmi nous, François ?
Oui, je vous entends bien.
Allez-y,
la liaison était mauvaise. Et je dis qu'aujourd'hui, on sait que le taux de protection globale de la population, c'est 85%. On n'a pas le choix, on est en guerre sanitaire, c'est clair.
Pour obtenir l'immunité collective, il faudrait même monter jusqu'à 90%. Donc vous dites, c'est pas la question, quoi. Au fond, la liberté individuelle, elle est moins importante que le collectif dans la situation sanitaire dans laquelle nous sommes. Restez avec nous, François. On a Geoffrey qui nous appelle de Valenciennes. Bonjour, Geoffrey.
Bonjour. Merci de me laisser de nouveau la parole. J'avais déjà eu l'occasion de discuter avec Pascal sur ce sujet. On ne peut pas parler de liberté personnelle quand c'est une partie de la population qui impose la vaccination. Aujourd'hui, moi, je voulais rappeler quelque chose, parce que je n'étais pas forcément politisé. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait un seul homme qui défendait la retraite, le contrôle pass sanitaire, l'obligation vaccinale. C'est Florian Philippot, des Patriotes. Je ne m'intéressais pas à lui. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'espère qu'il va mettre les bouchées doubles et qu'il va avoir ses 500 signatures. Parce que d'entendre des discours...
Oui, parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle l'année prochaine.
On parle de liberté individuelle et d'un seul coup, on nous dit « Ah oui, mais bon, il faut obliger les gens. Quand on oblige les gens, on n'est pas dans les libertés individuelles. » Et si les gens, ils ont envie de se faire vacciner par un vaccin dont la phase de test sera finie en 2023, c'est leur problème. Maintenant, on ne peut pas faire passer les soignants pour des criminels, les applaudir la veille à 20h, les applaudir, venir à l'hôpital, leur demander de venir travailler malade pour soigner les gens et maintenant les faire passer pour des criminels parce qu'ils ont décidé de prendre leur liberté vaccinale.
Geoffrey, voilà. Vous êtes vacciné ?
Je ne suis pas vacciné et je peux vous dire que je suis pompier professionnel. Le lendemain de l'allocution du président de la République, j'étais de garde et à la caserne, c'était la douche froide. Parce que la majorité de mes collègues ne souhaitent pas se faire vacciner.
Mais pour quelle raison ?
Les insultes de criminels, c'est complètement fou, quoi.
Non, mais je veux juste comprendre, moi. Parce que vous sauvez des vies, donc vous savez ce que c'est. Et vous avez l'esprit du collectif.
Justement, on s'est protégés. En plein été, on avait des combinaisons, on avait des masques, on avait des gants, on avait les mains 10 fois par jour. On se changeait à chaque retour d'intervention, tout ça. On a pris des précautions que peu de gens ont pris dans la population, même la population vaccinée et qui va se faire vacciner. Donc on a pris des précautions, on continue à les prendre. Et aujourd'hui, de justement dire oui, de jouer sur l'émotionnel en disant c'est les professionnels de santé qui ont contaminé. Franchement, vous croyez vraiment que ce peu de personnes va être suffisant pour pouvoir atteindre une immunité collective ? Moi, mes collègues, ils n'ont pas envie. La phase de test, elle se finit en 2023. Alors, les obligations de vaccins qui existent déjà aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'ils ont des décennies de retard. Là, des millions de personnes qui sont vaccinées, ça ne fait pas des millions d'années de recul. Ça fait toujours que 6 mois.
Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'incident majeur. Geoffrey, vous restez avec nous. Je garde aussi François au chaud. Et puis, vous allez pouvoir dialoguer tous les deux dans un instant.
Jusqu'à 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Rebière.
Santé, attention à l'abus d'alcool.
jusqu'à 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Rebière.
Et avec Laurent Tessier. Bonjour Laurent.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. C'est le sujet qui anime le Standard ce midi. Plus de 19 000 personnes, selon les autorités, ont manifesté hier contre le pass sanitaire.
On rentre en dictature là, le pass sanitaire. C'est un système de contrôle social qui fait deux catégories de citoyens, les bons citoyens et les mauvais citoyens. Aujourd'hui, les bons citoyens, c'est ceux qui acceptent le vaccin. Demain, ça pourrait être n'importe quoi d'autre que l'État pourra nous imposer. C'est absolument scandaleux, c'est une rupture au niveau des libertés, c'est une rupture au niveau de l'égalité.
Étiez-vous dans la rue hier? Êtes-vous choqué quand vous entendez les mots de dictature, tyrannie? C'est le cas de François au 3210.
Pire en même temps, et de plus en plus comparer notre pays à une dictature, quand on a juste le droit de manifester, et aucune de ces manifestations n'a été interdite, eh bien on est quand même en liberté. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter de comparer notre pays à une dictature.
Geoffroy est avec nous, il n'a pas le même avis sur la vaccination.
Je ne suis pas vacciné, et je peux vous dire que je suis pompier professionnel. Le lendemain de l'allocution du président de la République, j'étais de garde, et à la caserne, c'était la douche froide.
Ils me font tous rire, écrit Daniel sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Ça crie à la dictature, mais ça peut manifester librement. Allez comprendre que ces gens soient un peu logiques. De toute façon, lance Marie, il y aura toujours des raisons de crier au scandale. Par contre, les solutions, on les attend toujours. Ils me fatiguent, rajoute Carole. Et des propos que ne partage pas Christophe. Ces manifestations sont légitimes. Emmanuel Macron méprise le peuple. Et nous n'arrêterons pas la mobilisation, prévient Gabriel. Nous défendrons notre liberté.
François et Geoffrey, qu'on vient d'entendre, sont toujours en ligne avec nous. J'aimerais bien, messieurs, que vous échangiez vos arguments. François, qu'avez-vous envie de dire à Geoffrey, le pompier ?
J'entends ce qu'il dit. J'ai moi-même un fils qui est sapeur-pompier volontaire et qui fait des interventions régulièrement. Je l'entends, mais ils sont vaccinés. Quelque part, je veux dire qu'à un moment, cette immunité collective, elle est fondamentale. Et je ne pense pas, et c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec lui, je ne pense pas que le président Macron, je ne suis pas un proche du président Macron ou un sans-faux, ait stigmatisé les soignants. J'ai moi-même dans ma famille 4 soignants qui sont au contact de la maladie depuis le début, qui ont été en première ligne depuis le début, que ça soit dans les hôpitaux, à domicile, qui ont été confrontés à la mort en permanence. Et à un moment, moi je ne peux pas entendre dire que ces soignants-là ont été stigmatisés. Mmh. On leur demande simplement de prendre des précautions, d'aller encore plus loin dans la précaution. Maintenant, je voudrais aussi lui dire que globalement, les travaux des laboratoires sur les virus et sur les coronavirus ne datent pas d'hier. Ce coronavirus, il est connu. Les laboratoires, les start-up qui travaillent dessus travaillent depuis très longtemps, et que les premières vaccinations qui ont eu lieu sur d'autres maladies il y a bien longtemps, on n'avait pas le recul et on l'a fait quand même, et on sait qu'aujourd'hui c'est grâce à ça qu'on a éradiqué la variole, qu'on a éradiqué la poliomyélite. Donc à un moment, ayons cette conscience collective. Je ne cherche pas à le convaincre, je respecte parfaitement son opinion. Maintenant, ce qui est assez intéressant dans les propos que je viens d'entendre chez Geoffrey et dans les propos qui ont été retranscrits sur votre antenne, c'est quel est le sens caché à ces manifestations. Quel est le sens caché à ça? Qu'est-ce qu'on cherche derrière? Je pense qu'il n'y a pas forcément que des anti-vaccins derrière
Geoffrey,
ça.
Geoffrey.
Oui.
Voilà. Répondez à François.
Eh bien, écoutez, moi, je vais vous répondre. Alors, on fustige parce qu'il y avait 19 000 personnes dans la rue. Hier, par exemple, vous voyez, nous, on était un peu plus de 20 de pompiers de garde. Je peux vous dire, si on avait l'occasion de les manifester, on y serait certainement allés. Donc, il y a des gens qui n'ont pas pu les manifester parce qu'ils travaillaient. Et la majorité des gens qui travaillaient sont des personnels soignants. Donc, s'ils avaient l'occasion, il y aurait eu beaucoup plus de monde dans la rue. En plus, il y a aussi des gens qui ont des familles qui n'ont pas forcément l'occasion. Et je peux vous dire que le soutien populaire, il est bien au-delà des 19 000 personnes qui sont là. Pour l'histoire de la polio, de tout ça, c'est des vaccins sur lesquels on a pris du temps, il y a eu du recul, on a pris le temps de faire les différentes phases de tests, chose que nous n'avons pas aujourd'hui sur le Covid. Et
ils ont tous reçu des autorisations mises sur les marchés dans les règles, Geoffrey.
La phase 3 de la vaccination, la phase qui finira en test, sera en 2023. L'accélération qui a été faite là, les millions de personnes qui ont été vaccinées ne vous donnent pas des millions d'années de recul. Il faut bien comprendre. Et d'ailleurs, moi, je préfère.
Et vous n'êtes. Pardon, Geoffrey.
On accentue sur le traitement, comme ça peut être fait. D'ailleurs, personne n'en parle. Il y a un traitement aujourd'hui. L'État américain a acheté pour 1,8 milliard de dollars d'un traitement qui évite la forme grave, qui est à prendre sur 2 cachets pendant 5 jours. Personne n'en parle en France parce qu'on a misé sur le confinement et la vaccination. Traiter les gens, ce n'est pas les vacciner.
Pour l'instant, moi, je n'ai pas entendu parler d'un traitement révolutionnaire, Geoffrey.
Eh bien, écoutez, justement, on n'en parle pas. C'est comme tout, quand ça n'arrange pas, on n'en parle pas.
Mais pourquoi ça n'arrangerait pas? Je ne vois pas où est le problème, je ne vois pas où serait
parce
le conflit.
Parce qu'aujourd'hui, on a clairement des décisions
politiques. Ce serait mille fois plus simple s'il y avait un médicament.
Écoutez, aujourd'hui, on a dépassé les conditions sanitaires. Ouais. Les prises de position, elles sont plus sanitaires, elles sont politiques. Aujourd'hui, on a misé sur le confinement et la vaccination. Et malheureusement, ils peuvent pas y déroger aujourd'hui de dire qu'on aurait pu miser sur le traitement. Pourquoi aujourd'hui, on a demandé, par exemple, à Pasteur, qui avait 80 traitements, de relancer une deuxième phase de test? On est en guerre. On a quelqu'un qui a peut-être trouvé quelque chose.
Bah oui, mais peut-être.
Pour le vaccin, mais ça n'arrange pas pour le traitement. Alors, il faut m'expliquer.
Mais non, mais pourquoi on irait pourquoi vous trouvez qu'on va trop vite sur le vaccin et qu'on va pas assez vite sur les médicaments? C'est exactement la même chose.
On va pas assez vite sur le traitement. Pourquoi on n'accélère pas sur le traitement? Pourquoi est-ce qu'on a mis des bâtons dans les roues? À un moment, il était même écrit, d'ailleurs, c'est pas moi, hein, dans un quotidien, le Pasteur jette l'éponge parce qu'il n'arrivait pas à avoir les autorisations du gouvernement. Donc les décisions qu'elles sont prises, elles sont bien politiques. Et d'ailleurs, il y a un homme qui le défend très bien. Je vous disais, c'est Florent Philippot des Patriotes. Et j'espère que ce monsieur va percer parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui défend l'ensemble de nos libertés.
François,
et il y en a plus
50. Dites-moi, que vous avez envie de dire à Geoffrey?
Bah, écoutez, je suis très embêté parce que je sens poindre là derrière les théories du complot qui arrivent, quoi. On ne peut pas travailler sur un traitement. Le traitement passera par les mêmes voies d'habilitation et d'autorisation que les vaccins. Donc, de la même façon, et je sens derrière poindre ça, encore une fois, quel est le sens caché? C'est encore une fois la théorie du complot, c'est encore une fois de l'antimacronisme primaire.
Quand on arrive à bout d'arguments, c'est souvent la théorie qu'on sort, c'est-à-dire la théorie.
Mais non, je
ne pense pas
mais
à la.
Mais moi non plus, mais moi non plus. Mais faites confiance à nos médecins. Faites confiance à nos médecins.
Ne me sortez pas ce genre de discours.
Monsieur, faites confiance à nos médecins, faites confiance à la France, faites confiance à votre pays. Et faites confiance à nos médecins qui sont formés, parmi les mieux formés du monde.
Les gens qui sont vaccinés, qui ont peur, se sont fait vacciner. Les gens qui ne souhaitent pas, laissez-leur leur liberté. Vous êtes vaccinés, de quoi avez-vous peur?
Mais non,
dites-moi,
monsieur,
pardonnez-moi.
Je n'ai pas peur, j'ai une responsabilité à l'égard des autres,
responsabilité. Très bien, de quoi avez-vous peur?
Donc,
pourquoi imposez-vous aux autres qui ne souhaitent pas le faire?
Mais je n'ai pas peur de rien, je vous parle, cher monsieur.
De quel droit vous imposez votre vision aux autres personnes?
Je n'impose pas ma vision. J'ai une famille qui a été confrontée. J'ai un fils de 25 ans qui a été confronté à la mort à cause de ça. J'ai
J'ai failli perdre des collègues.
C'est simplement une question de conscience collective. Je fais appel à la pédagogie, à la volonté de la pédagogie. Je ne contrains en rien. Mais à un moment, il faut faire ce choix. Et le traitement, je suis désolé. Je suis pas un pro-États-Unis, je suis pas un pro-Macron, je pense pas que vous soyez complotiste ou pas plus complotiste que moi. Je vous demande simplement de faire confiance à nos médecins, à notre autorité de santé, qui n'a aucun intérêt à nous mentir, qui n'a aucun intérêt à nous emmener dans le mur. Elle a simplement à protéger 66 millions de personnes pour nous permettre de revivre une vie normale, active et sociétale à partir de septembre, quoi. C'est ça l'intérêt. C'est juste ça que je vous demande. Je ne veux pas vous contraindre, je ne cherche pas à vous convaincre ni à vous contraindre. Je veux dire simplement, faites confiance à nos médecins. Voilà.
Geoffrey, oui. vous, en tant que pompier, pour vous, la vaccination, elle est obligatoire?
Écoutez, elle va être obligatoire à partir du 15 septembre et je peux vous dire que j'espère que les syndicats vont monter au front parce que c'est inadmissible de nous imposer ceci. Parce que là, aujourd'hui, c'était deux vaccins. Maintenant, on en a trois, on parle déjà d'un quatrième. Ça sera quoi le prochain vaccin qu'on nous obligera pour aller manger au restaurant? Non mais on est dans un délire total, c'était pour les personnes âgées, ensuite c'était les adultes, maintenant on parle de vacciner les enfants.
C'est pas seulement pour aller au restaurant, hein, Geoffrey.
Oui, bien sûr, non mais je donne un exemple.
On est bien d'accord, bien sûr, vous faites un raccourci évidemment.
Bien sûr, je fais un
raccourci. Mais qu'est-ce qui va se passer pour vous? Mais que va-t-il se passer pour vous si vous refusez la vaccination?
Alors avant de vous répondre à ça, je voulais vous dire que moi je ne suis pas dans l'émotionnel, je suis dans le rationnel, donc d'essayer de tirer une larme aux gens en disant j'ai vu la mort. Bien sûr madame, je la vois tous les jours, ça fait 20 ans que je fais ce travail. La mort, je la vois au quotidien. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, malgré tout ça, j'ai pris les précautions qu'il fallait et je ne comprends pas qu'on m'impose ça. Maintenant, pour revenir sur ce qu'on va m'imposer, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Aujourd'hui, on a appauvri les gens, on a tous des crédits sur le dos. Personne ne pourrait se permettre aujourd'hui de lâcher son travail et de mettre sa famille dans la rue.
D'accord. Donc vous vous y résignerez, si j'entends bien.
On est pris à la gorge, on a tous l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, et encore plus maintenant, le flingue sur la tempe, comme on dit, évidemment. Parce que si je ne vais pas me faire vacciner, je vais perdre mon travail et que vous me direz comment je peux faire pour rembourser mes crédits que j'ai fait pour pouvoir me loger, acheter une voiture. Voilà, aujourd'hui on nous a appauvris et maintenant on nous met le pistolet sur la tempe.
Merci Geoffrey, merci François d'avoir débattu de manière un peu âpre parfois, mais c'était extrêmement intéressant. On va poursuivre cette conversation dans un instant avec Benjamin qui est pharmacien dans le Pas-de-Calais.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Limiter les aliments gras, salés, sucrés.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Robière.
Et Laurent Tessier de retour dans ce studio.
Une nouvelle question au 32-10. Faudra-t-il rendre la vaccination obligatoire pour tous ? Écoutez l'avis du président du Sénat, Gérard Larcher. Il était l'invité de Benjamin Sportouche ce matin sur RTL.
Si nous voyons que c'est nécessaire, alors il faudra y aller.
À quelle date ?
Je pense que le pass sanitaire est un bon levier.
Mais il faudra faire le point, quoi, en début septembre ?
Non, non, ce sera trop tôt parce que vous voyez le temps de la vaccination. Mais c'est un sujet pour le dernier trimestre.
Alors la vaccination obligatoire pour tous, qu'en pensez-vous ? Faut-il aller jusqu'à cette mesure ? Est-ce la meilleure solution pour sortir de cette crise sanitaire ? Eh bien, je ne me laisserai pas faire, prévient Michel sur nos réseaux sociaux. Je ne me ferai pas vacciner. Un commentaire qui fait bondir Martine. Refuser la vaccination, c'est mettre en danger sa vie et celle des autres. C'est la jouer individuelle.
Bonjour Benjamin.
Bonjour Laurent.
Soyez bienvenue sur RTL. Vous êtes pharmacien dans le Pas-de-Calais. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ?
Alors, si vous me permettez, juste avant, j'aimerais répondre à Geoffrey, pas sur quelques questions scientifiques, pures, par rapport à mon métier, notamment par rapport au traitement qui est sorti, qui existe. Il a une problématique, en fait, c'est qu'il doit être donné dans les 48-72 heures après avoir attrapé le virus pour qu'il fonctionne. Mm-hmm. Donc, en fait, il va être utilisé, il est utilisé dans les centres hospitaliers pour des personnes qui sont vraiment cas contact fort, en fait, avec une grosse suspicion d'attraper le Covid. Qui vont
parce que 24 à 48 heures, c'est très très court. Souvent, on ne le sait même pas.
C'est pas énorme. Ouais, voilà. C'est pour ça, en fait, qu'on ne peut pas l'utiliser à grande échelle au niveau du traitement. Et concernant, après, le vaccin en lui-même, le vaccin ARNM, sur lequel, en fait...
Le vaccin ARN messager.
Voilà, c'est ça.
Hein, c'est-à-dire le Pfizer et le Moderna.
Le Pfizer et le Moderna, c'est une technique qui a bientôt 10 ans d'existence, qui était prévue en fait pour l'utilisation, pour lutter contre le cancer. Et c'est une grande, grande technologie qui va permettre, on l'espère tous, d'éradiquer pas mal de cancers en fait. Donc voilà, c'est un grand espoir après derrière. C'était juste au niveau scientifique. Et s'il veut en discuter avec moi, je l'invite à aller vérifier mes informations sur Internet sans aucun problème. Et s'il veut en discuter avec moi, vous pouvez lui donner mon numéro de téléphone et je répondrai à ses doutes sans aucun plaisir. Sans aucun problème.
Avec plaisir. Bon, pour le reste, alors une obligation, une vaccination obligatoire pour tous. Hein. Vous avez entendu le président du Sénat qui disait ce matin, si c'est nécessaire, il faudra y aller. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment aller jusque-là ?
Vaccination obligatoire, je ne le souhaite pas. J'ai jamais vraiment souhaité la vaccination obligatoire. Nous, au niveau de la pharmacie, on travaille au niveau de la pédagogie. Donc, on informe les patients, on n'arrête pas de vacciner. Encore cette semaine, on fait 55 vaccins.
Vous en avez fait un peu plus, là, depuis le discours d'Emmanuel Macron, vous aussi ?
Ah bah depuis... Alors, mardi, je ne travaillais pas. Et par contre, mes collègues ont été harcelés au téléphone, et on comprend tout à fait. Et là, effectivement, la liste d'attente, elle est énorme. Hein. Donc les gens, oui, voilà. Il y a eu, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui étaient dans le doute, qui, de fait du discours du président, se disent on va le faire. Voilà.
Et nous, on va le faire, mais pour autant, ils ne sont pas forcément rassurés.
Voilà, mais c'est notre travail de les prendre à part et de leur expliquer, voilà, de les rassurer sur les vaccins, comme quoi il n'y a pas de souci et ça se passe très très bien.
Et vous faites beaucoup de pédagogie, Benjamin ?
Oui, c'est essentiel.
D'accord. Et pour vous, ce sont des mesures liberticides ou pas, alors ?
Moi, je n'ai pas entendu de mesures liberticides. En soi, le président n'a pas dit « j'interdis à ceux qui ne sont pas vaccinés quoi que ce soit ». C'est que le fait d'être vacciné va faciliter certaines choses. Voilà. Maintenant, libre à personne de ne pas vouloir se faire vacciner, de ne pas le faire. Enfin, qui ne veulent pas se faire vacciner, de ne pas le faire. Et après, aller faire des tests PCR qui seront payants en fait, à partir du mois d'octobre. Pour aller dans les différents lieux de vie commun. Mais moi, j'estimais, là où il y avait quelque chose de liberticide par la force des choses, pour moi, c'était plus le confinement. C'est pas en soi le fait d'imposer le passeport vaccinal.
Mmh. Restez avec nous, Benjamin. On a aussi Arnaud qui nous appelle de Strasbourg. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour Christelle. Très heureux de vous retrouver dans cette
émission. Moi aussi. Ça me fait plaisir de vous entendre. Ça faisait quelques années qu'on ne s'était pas parlé.
C'est clair.
Alors
Ben écoutez, moi je suis pas obligatoirement fan de l'obligation de la vaccination. Vous m'auriez posé la question il y a 4-5 ans pour l'hépatite B, par exemple, j'aurais été contre l'obligation de vaccination. Mais fort de constater qu'aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, avons-nous le choix de ne de ne pas obliger les gens à se vacciner. Je ne le pense pas. Je pense que malheureusement, l'immunité collective, c'est peut-être, c'est même pas peut-être, c'est la seule solution pour que l'on puisse revivre normalement, pour que l'on n'ait pas une épée de Damoclès tous les 4, 5, 6 mois de reconfinement. Cette crise sanitaire, elle a coûté assez cher à l'État français. On est quand même déjà un pays surendetté. Donc, et si on doit encore de nouveau avoir des reconfinements, on va avoir des faillites d'entreprises encore plus importantes. On va avoir, on va être vraiment dans la panade. Donc, je pense que la nécessité, elle est absolue de l'obligation de ce vaccin, comme d'ailleurs on oblige les enfants à se faire vacciner de certaines maladies, la rougeole, etc.
Oui, donc, mais il vaut toujours mieux convaincre que contraindre. C'est ce que nous disait aussi Benjamin, on a besoin de pédagogie là-dessus.
Je suis bien d'accord. Écoutez, il y a des radars sur la route parce qu'on ne doit pas rouler au-dessus de 90 km/h ou 80 km/h ou 130 sur une autoroute. Vous avez beau faire de la pédagogie, expliquer les choses, vous n'avez malgré tout jamais 100% des gens qui respectent. Donc, oui, bien sûr, c'est mieux de le faire sous forme pédagogique, mais on sait très bien que ça ne suffira pas pour atteindre l'immunité collective.
Donc, à un moment, il faut tordre un peu le bras, quoi.
Voilà. Après, je voudrais juste rajouter quelque chose, non pas pour faire de la politique politicienne, mais sincèrement, je trouve qu'on n'est pas non plus aidé par ce gouvernement qui... j'étais d'accord avec ce qu'a dit Emmanuel Macron lorsqu'il est intervenu, mais j'ai tout de suite réagi en me disant, mais comment que ça va être faisable pour les adolescents qui n'ont pas reçu leur première vaccination? Ça va être la panade pour les parents qui sont en vacances, on va pas pouvoir aller au restaurant avec ses parents, pas au cinéma avec ses parents. Donc j'aimerais que...
Mais c'est pour ça qu'il y a une tolérance jusqu'à fin août pour les adolescents.
Alors oui, mais elle a été annoncée le lendemain. Donc j'aimerais bien que quand le président intervient, il puisse donner vraiment une vision très claire sur tous les points et qu'on n'ait pas le lendemain un assouplissement de ce qui a été dit la veille. Oui. Parce que je trouve que ça décrédibilise un petit peu la parole politique.
Oui, on n'a pas rectifié le tir après la parole du président. Merci Arnaud d'être intervenu sur RTL. On fait une pause et dans un instant, on poursuit cette conversation avec Bertrand.
Les auditeurs. Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Christelle Rebière.
Et avec Laurent Tessier, de retour.
Êtes-vous en train d'attendre pour passer votre examen du permis de conduire ?
Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis.
C'est sûr que certains d'entre vous ont peut-être quelques soucis en ce moment. 350 000 élèves patientent actuellement pour passer les épreuves pratiques. Les délais d'attente sont passés de 45 à 90 jours en raison notamment des différents confinements. Vos enfants sont-ils concernés par cette situation? Eh bien ma fille commence ses leçons, a nous dit Emmanuel sur nos réseaux sociaux. Apparemment, les jeunes attendent des dates depuis le mois d'avril pour passer les examens. Son moniteur n'a jamais vu ça. Eh bien justement, moniteur d'auto-école, inspecteur, candidat au permis, nous attendons vos témoignages dès maintenant au 3210.
Ah oui, appelez-nous, moi j'aimerais bien vous entendre parce que c'est quand même incroyable que les délais d'attente aient doublé en quelques semaines. Merci Laurent. Revenons-en à notre tour de vie sanitaire, donc qui a été annoncé par le président de la République lundi. Bertrand nous appelle du Var. Bonjour Bertrand.
Bonjour Christelle.
Soyez le bienvenu. Vous êtes directeur d'un club de gym. Comment ça va se passer pour vous alors ?
Alors oui, j'ai deux clubs et ça se passe très mal pour nous.
C'est-à-dire
Il ne faut pas tourner autour du pot. Hein. C'est une condamnation de plus. Nous, on n'a pas le temps de mettre tout ça en place. Ce n'est pas possible. Et le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une majorité de pertes de clientèle chez les seniors qui venaient dans les clubs de manière très régulière avant et qui se sont écartés des clubs dans un premier temps à cause de la peur de la pandémie. Et puis ensuite, ils ont du mal de revenir, c'est normal, surtout en cette période d'été où là, les plus motivés qui sont dans les clubs aujourd'hui sont les jeunes. Et les jeunes, ils sont pas vaccinés massivement, c'est même plutôt le contraire. Et oui, j'ai fait une petite enquête mardi sur le terrain. C'est du factuel ce que je vous donne. Hein. C'est pas des chiffres. C'est des chiffres sur le terrain.
C'est empirique, mais c'est intéressant. Dites-nous.
Voilà, on était une vingtaine sur le plateau de poids libre en entraînement muscu. Et j'ai posé la question clairement, qui était vacciné? Il y en a deux qui étaient vaccinés chez mes jeunes. Là. Deux qui étaient vaccinés. Ça veut dire que Le 21 juillet, moi, il va falloir que je me passe, déjà, après tout ce qu'on a vécu, avec tout ce qu'on a pris pendant ces années de pandémie. Là, faut savoir que quand on n'est pas fermé, on travaille en jauge de 50%. Donc, il va falloir encore que je me prive de 60%, 70% de ma clientèle jeune. Mais comment je fais? Et au niveau de mes salariés, comment ça va se passer?
Vos salariés vont devoir être vaccinés aussi, Bertrand?
Oui, ils vont devoir être vaccinés.
Oui, comme tous les endroits qui reçoivent du public, en fait, comme les restaurants, par exemple.
Oui, Alors le problème, c'est que moi, dans mon équipe, vous savez, c'est pas des anti-vaccins à fond, avec des argumentations délirantes et tout. C'est des gens juste qui veulent prendre un peu de recul, etc. Mais comment je fais avec des salariés que j'ai avec moi depuis 15 ou 20 ans? Vous croyez que je vais les licencier? Vous croyez que je pourrais les mettre à pied un mois ou deux mois en n'étant pas d'accord avec eux et que ça laisse pas des séquelles graves au sein de l'entreprise? Vous croyez qu'on a besoin de ça en ce moment? Il n'y a pas assez de tension au sein des entreprises? On n'a pas assez de difficultés comme ça? On ne se pose pas assez de questions pour le lendemain? Je suis furieux. Je me demande, mais quelle est la finalité de tout ça? Je suis pas anti-vaccin. Moi, je me suis fait vacciner lundi. Je me suis fait vacciner lundi à 15h parce que je savais que le président allait nous sortir un truc comme ça.
C'était la première dose, Bertrand ?
Oui, alors moi j'ai avoir 60 balais, donc j'ai pris le Janssen, vous voyez. Mais oui, c'était ma première unique dose. Mais bon, pas
parce que j'étais réfractaire. Je peux vous poser une question un peu intime. Pourquoi vous n'y étiez pas allé avant ?
Alors tout simplement parce que là j'ai pas de certitude, mais bon, vous allez me dire, il est un peu folklore, Bertrand, mais le 24 octobre, quand on a refermé, j'avais 4 ou 5 personnes autour de moi qui avaient le Covid. Et j'ai voulu, en prenant des précautions hein, pour les gens qui étaient autour de moi, mais j'ai été embrasser ces personnes-là pour choper le Covid. Je me suis dit, quitte à être malade, autant être malade pendant que je suis fermé. Mais oui, mais bon,
vous êtes kamikaze quand même.
Voilà.
Ça peut...
hein, pardon,
vous êtes kamikaze, parce que ça peut mal tourner quand même.
Non, je suis pas kamikaze. Ben, la preuve, je suis là. Je ne dénie pas les risques d'attraper le Covid, je ne dis pas que c'est une grippette et tout.
Non, mais c'est surtout que vous ne pouvez jamais savoir comment votre corps va réagir.
Ben voilà, bon, là, on va dire que j'ai fait confiance,
vous avez fait confiance à la vie,
un peu inconsciente à mon corps. Hein, enfin bref, et j'ai une grande fille qui bosse en EHPAD, qui était aussi positive et qui est venue à un moment donné. Je lui ai demandé de venir à la maison aussi. Donc vous voyez, bon, donc je me suis pas fait vacciner avant à cause de ça, mais je me fais vacciner, Christelle, c'est pas pour moi que je me fais vacciner. C'est pour que...
Mais c'est toute la question, Bertrand, c'est toute la question. Est-ce qu'on le fait pour soi ou pour les autres ?
Oui, mais attendez, là, il y a un problème de logique quand même. C'est ce que m'opposent mes clients les plus jeunes, et sans parler de complotistes, parce que là, on entend des thèses aussi délirantes, là, ça me fatigue autant. Oui. Mais franchement, le vaccin, il marche ou il marche pas ? Quand on dit que AstraZeneca, c'est 80, Pfizer et Moderna, c'est 90% d'évitement du Covid ou 95% d'évitement de cas graves.
Oui.
Bon, alors, on est bon là quand même. Donc, si le gars, il est vacciné en face de moi, et si moi, je suis pas vacciné, de quoi il a peur? Il y a un moment donné, il faut arrêter. Alors, moi, je pense que ça aurait été un petit peu plus...
Le problème, c'est que vous pouvez l'attraper par quelqu'un d'autre qui n'est pas vacciné non plus et continuer à le transmettre. Voilà, c'est ça.
Mais oui, le transmettre aux gens qui sont pas vaccinés.
Mais oui, mais
ou alors,
encore
le vaccin marche pas.
Mais il y en a encore et beaucoup.
Alors, moi, je pose juste aussi une autre question. À ce moment-là, est-ce que ça aurait été pas plus incitatif d'avoir des mesures un petit peu plus soft, c'est-à-dire de dire, et là, moi, je suis sûr que ça aurait marché, de dire, bon, bah, les gars, ceux qui sont dans le club, vous enlevez le masque quand vous êtes vaccinés. Par contre, ceux qui sont pas vaccinés, vous gardez le masque. Là, je suis sûr qu'on aurait plus de monde qui soit fait vacciner. Et pour en revenir à mon problème aujourd'hui...
Oui, vous pensez perdre combien de chiffre d'affaires là, avec ce nouveau système à partir du 21 juillet ?
Vous savez quoi, Christelle ? J'ose même pas y penser, parce qu'on n'est pas bien là, malgré les aides. Heureusement que le gouvernement, tout n'est pas à jeter dans ce qu'a fait le gouvernement. Je vous le dis, moi, j'aimerais pas être politique. Il n'y a pas de bonne solution aujourd'hui. Il n'y a pas de bonne méthode. On est un petit peu dans l'expectative, dans le tâtonnement. Mais là, j'ai déjà perdu. Mon chiffre d'affaires a été divisé par deux, Christelle. Par deux.
Bien sûr.
Pourquoi ? Parce que j'ai pas prélevé pendant le confinement. J'ai arrêté les prélèvements, les encaissements.
Oui.
Comment vous voulez encaisser des gens qui viennent plus ? On vous instaurera un niveau de confiance, un climat de confiance entre vous et vos adhérents. Vous dites pas au gars, bah, tu payes et puis on verra après. Non, c'est pas possible. Donc moi, j'ai tout arrêté. Et aujourd'hui, là, les jeunes qui sont revenus massivement, on a fait un bon mois de juin. Moi, je suis content. Mais on est rare à faire des bons mois de juin. Vous savez combien de, sur 74% de clubs, ça c'est un sondage qu'on a fait au sein du syndicat. Il y a 74% des clubs qui déclaraient que sur 100 adhérents perdus, ils en avaient repris que 15. Vous vous rendez compte ?
Oh. Et bon, oui, parce que les gens ont pris d'autres habitudes, c'est ça ? Ils font du sport à la maison.
Ils font, non, alors à la maison, vous savez comment ça se passe, on achète toujours le vélo d'appartement, mais ils finissent dans le placard. Ceux-là y reviendront, à moins d'avoir une maison de 200 mètres carrés avec un sous-sol aménagé. Donc, mais ceux-là y reviendront. Non, oui. Mais il y en a d'autres qui font de sport, qui font du coaching à l'extérieur, oui, qui font de l'acrobranche, qui font du kayak, qui font je ne sais quoi. Mais là, le problème aujourd'hui, c'est que les jeunes qui viennent encore massivement dans les clubs parce qu'ils en ont besoin, ceux-là, ils ne sont pas tous vaccinés, loin de là. Je vous dis, mais moi, j'en ai peut-être 60 ou 70% qui ne sont pas vaccinés. Comment je fais, moi? Vous vous rendez compte? Et le gars qui est pas vacciné par conviction, le gars, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il vient chez moi. Je vais devoir le virer. Je vais me fâcher avec lui. Vous vous rendez compte qu'avant, il y avait deux sujets que moi, j'évitais en famille et entre amis. La religion et la politique.
Oui, hein, deux classiques.
Maintenant, on a réussi à inclure le vaccin. Ouais. Et avec mes salariés, comment je fais? Comment je fais avec mes salariés? J'ai le choix entre les licenciés, les mettre à pied et tout, mais c'est ma famille, les salariés. Ça fait 20 ans que je bosse avec eux. Comment on peut me donner... Si le gouvernement n'est pas arrivé à convaincre, avec toute leur argumentation scientifique, etc., pourquoi ce serait à moi de convaincre mes salariés? Pourquoi ce serait à moi de les punir? C'est pas normal. C'est pas normal. Qu'est-ce qui va se passer? Si vraiment je suis coincé, je vais au bout, mais on va se fâcher, mais je ne veux pas me fâcher avec eux. Et s'ils avaient raison dans leurs doutes, s'ils avaient raison, comment je fais? Et pourquoi alors à ce moment-là, pour achever de convaincre les plus sceptiques, leur dire, bon ok, vous ne voulez pas de l'ARN, ok, bon, on vous laisse le choix entre un vaccin avec une conception classique, AstraZeneca ou Johnson. Et quand vous avez plus de 55 ans, vous avez le choix. Quand vous avez moins de 55 ans, vous ne pouvez pas. Là, il y a un problème aussi, quoi. Même s'il y a des facteurs de risque qui sont accrus, on le sait. OK, à ce moment-là, chacun pourrait prendre ses responsabilités en disant, OK, on est coincé, on va se faire vacciner, mais nous, on veut du vaccin conventionnel. On vous signe des charges, on n'en parle plus.
Restez avec nous, Bertrand. On a aussi Anne qui voudrait s'exprimer, qui est infirmière dans l'Aveyron. Bonjour, Anne.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous partagez... Je vous entends très bien. Est-ce que vous avez la voix très claire et très joyeuse en plus? Ça fait plaisir. Ouais,
je viens de très loin, là. Je suis très loin actuellement.
Bon, est-ce que vous partagez l'avis de Bertrand, là, sur la vaccination?
Alors, pas surtout, effectivement. Moi, là où je trouve... où je suis assez choquée, c'est que, bon, Bertrand est pas loin de 60 ans. Il dit, je suis allée faire ma première dose lundi parce qu'on nous l'impose. Mais il fallait, je pense, prendre le temps d'une plus longue réflexion auparavant. Après, ce que je voulais vous dire, Christelle, c'est que moi, j'ai une position très tranchée parce que je fais partie, effectivement, du corps médical, d'une part. Je pense que le vaccin, c'est un vaccin, pour moi, identique à un vaccin de la grippe, puisque c'est un virus que l'on combat. Et on n'est pas dans une bactérie. Que l'on contraigne un vaccin dans le cadre d'une bactérie comme le lavage, comme le RER, comme d'autres bactéries, la variole, etc., c'est une chose. Mais là, on est dans un virus, c'est-à-dire, et on est dans un... Le coronavirus n'est autre qu'une forme de grippe. Alors, aujourd'hui, vaccinons-nous, ne nous posons pas de questions. Je comprends, les vaccins n'ont pas eu le temps d'être testés pendant plusieurs années, mais on est sur un vaccin similaire au vaccin de la grippe, avec les mêmes excipients pour un vaccin de la grippe.
Donc, oui, enfin, les vaccins ARN messager, ils utilisent une autre méthode que les vaccins de la grippe traditionnels. Ils sont pas fabriqués
tout à fait
de la même manière.
Oui, on est dans de l'ARN en grande majorité, mais pas tous, parce que tous ne sont pas sous ARN.
On est d'accord, mais vous, j'ai l'impression que vous avez un doute. J'ai l'impression que vous avez un doute, Anne.
Moi, j'ai pas un doute. C'est que effectivement, il est liberticide aujourd'hui, et là-dessus, je vous le
Pourquoi
dis,
c'est
même en tant que personne, liberticide de vouloir imposer un vaccin dans le cadre d'un virus et non pas une bactérie. Que l'on impose un vaccin dans le cadre d'une bactérie qui ferait des ravages, ok. Mais là, on n'est pas sur le même taux et le même pourcentage de ravages sur
ce
type de virus.
Comment fait-on, Anne, si c'est ça ou le confinement?
Ben écoutez, si les gens se sentent de repartir au confinement, ben qu'ils y retournent. Moi, je me suis pas plainte du confinement parce que j'habite en campagne, mais quelque part, j'ai envie de vous dire que même si j'habite en campagne et que je jouis sûrement de certaines libertés que d'autres n'ont pas joui en ville dans un appartement sans balcon, ben au bout d'un moment, on en a un peu marre d'être confiné, de penser toujours à son attestation, de j'ai le droit de sortir, j'ai pas le droit de sortir, j'ai le couvre-feu, j'ai pas le couvre-feu. Je crois qu'on a envie de vivre normalement, mais que chacun prenne ses responsabilités, que les gens mettent leur masque sur la devant le visage, même si ça n'est plus obligatoire pour sortir à ce moment-là.
Oui, mais on en revient toujours à cette histoire d'immunité. On en revient toujours à cette histoire d'immunité collective. Anne, comment fait-on si on veut les spécialistes nous disent tous, il faut 90% de vaccinés pour atteindre l'immunité collective. Comment fait-on? C'est inextricable.
Je pense que c'est plus qu'inextricable. Je pense que remettons les pieds sur terre, on n'obtiendra jamais 90% d'immunité collective, que ce soit en France ou dans un autre pays ou sur un autre continent. Mmh. Il faut être honnête.
Comment fait-on pour limiter la casse? Parce qu'il y a ce variant Delta qui est beaucoup plus contagieux que les autres souches.
Oui. Le variant Delta est plus contagieux. Il y a sûrement aussi d'autres variants qui sont en préparation, qui vont nous tomber dessus avant la fin de l'année.
Plus le virus va circuler, plus il y en aura, ça c'est sûr.
De toute façon, soyons objectifs. D'accord. Alors, comment fait-on? Eh bien, c'est un cas de conscience pour chacun. Il faut que les gens arrêtent de regarder le bout de leur nez et pensent à leur gueule. Excusez-moi l'expression, hein, parce que c'est pas très poli de dire ça à l'antenne, mais qui pensent aussi à la collectivité à ce moment-là, que tout le monde passe au vaccin et c'est tout.
Voilà.
Mais sans en arriver à l'imposer, il y en a marre en France. On soit tenu de faire des lois et de légiférer pour obtenir que des enfants aient un casque sur la tête pour faire du vélo, aussi pour faire du ski, il faudrait qu'ils aient un casque sur la tête, parce que moi, ça me dresse les cheveux sur la tête lorsque je vois chaque hiver, sur des pistes de ski, même familiales comme ça se trouve chez moi, des enfants en bas âge sans maîtrise qui skient sans casque. Voilà. Oui. Ça fait partie des éléments, moi, ça me perturbe qu'en France, on doit légiférer sur tout au lieu de faire appel. Je serai un minimum de responsabilité des gens.
Merci beaucoup. Merci Anne de nous avoir appelé depuis l'Aveyron. Belle journée à vous dans ce beau département. On fait une pause et puis on va changer de sujet parce que quand même, les auto-écoles, alors, il y a des tas de candidats qui attendent pour passer le permis. 350 000 candidats en souffrance. On va accueillir Jérémy dans un instant.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole.
Avec Christelle Rebière. Demain. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Rebière.
Et Laurent Tessier.
C'est l'heure des sujets.
Non essentiels.
Non essentiels.
Vous avez des cheveux blancs comme notre réalisateur Damien Béchiot. Eh bien, mesdames, messieurs, tout n'est pas perdu. Oui, selon une étude américaine, les cheveux blancs de 14 jeunes volontaires ont retrouvé leur couleur initiale. Alors, comment allez-vous me dire? Eh bien, en diminuant le stress après des périodes de détente. Donc, le conseil du jour, arrêtez de se faire des cheveux blancs, assumez son côté Georges Clooney. Et si vous trouvez cela classe chez un homme, eh bien, dites-le nous au 3210. Il y a 3 ans, le 15 juillet 2018, l'équipe de France décrochait sa seconde étoile. Nouveau champion du monde, où étiez-vous ce jour-là? Racontez-nous l'ambiance autour de vous quand nous avons... Ça fait du bien, hein, surtout après notre parcours à l'Euro.
Bon, qu'est-ce que vous aviez fait ce soir-là?
J'étais allé dans un bar. Oui, la soirée avait été très longue. On va pas plus rentrer dans les détails.
Et la nuit très courte, parce qu'il fallait bosser le lendemain quand même. Et les cheveux blancs, vous n'êtes pas concerné?
Non, absolument pas. Il n'y a rien du tout. C'est, voilà.
Voilà. Merci Laurent. Allez, bonjour Jérémy.
Bonjour Christelle.
Et soyez le bienvenu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les auto-écoles? Pourquoi cet embouteillage sur le permis de conduire, Jérémy?
Bah écoutez, donc moi je suis gérant d'une auto-école, enfin de 3 bureaux sur le bassin rennais, donc en Bretagne, donc on est assez fortement touché. Je vais essayer d'être assez clair parce que c'est un peu technique par moment. Pour moi déjà, la forte demande au niveau pratique, elle est due déjà d'un retard dû au confinement. Pendant le confinement, il y a 300 à 400 000 examens qui ont été annulés, qui n'ont pas été assurés. Mm-hmm. Donc là, je parle du permis B, parce que là, on parle seulement du permis B, vous parlez de 350 000 candidats, il y a quand même des permis poids lourds, des permis moto que moi, je ne maîtrise pas, mais là, moi, je parle vraiment du permis parmi les, hein, je tiens juste à le préciser. Il y a peut-être eu une conséquence de la natalité, d'il y a 15 ans, 20 ans, peut-être, parce que c'est ce que nous répond un peu la préfecture.
C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de candidats, c'est un problème démographique ?
Bah, ça peut, en tout cas, ça je ne veux pas l'assurer, mais en tout cas, on voit qu'il y a de plus en plus de demandes. Et pour moi, l'autre raison, c'est aussi des candidats qui étaient dans des plateformes, pour ne pas les citer, qui nous sollicitent de plus en plus, et ça on le voit tous les jours, à la vue des délais de passage en candidat libre, parce qu'on peut passer notre permis en candidat libre. Et il faut savoir que maintenant, ils attendent 8 mois pour avoir une date d'examen en préfecture.
8 mois.
Pour avoir une date de permis. Donc du coup, ils viennent nous voir parce que nous, on a des droits mensuels, et je vais y revenir après, des droits qui sont acquis, qui sont là. Donc forcément, il y a quand même un avantage à venir dans une structure.
Je ne comprends pas la notion de candidat libre. On est bien obligé d'aller dans un endroit toujours le même pour prendre des leçons de conduite ?
Pas du tout. En fait, vous avez dû entendre des plateformes qui font de plus en plus de bruit, comme dans tout métier, qui forment les candidats en dehors des structures auto-écoles classiques. Ouais. Et ensuite, les candidats eux-mêmes demandent une place à la préfecture, puisqu'ils sont en droit, comme un bachelier veut passer son bac l'année suivante tout seul, de demander une date en candidat libre.
D'accord.
Et ensuite, il est soumis forcément à un délai qui dépend et qui varie, qui s'allonge en fonction des...
D'accord, moi je pensais que c'était valable pour le code, mais pas pour la conduite.
En fait, dans le code, c'est encore différent, parce que le code, c'est des structures privées, donc on peut prendre des places un peu comme on veut. Hein. C'est, c'est les bienfaits de la privatisation. Si on veut en trouver un bienfait, c'est de pouvoir passer l'examen un peu quand on veut. Maintenant, au niveau des examens de permis, c'est encore la préfecture qui gère, donc forcément, le délai, là, il ne va pas être du jour au lendemain d'avoir une place, il va falloir attendre le délai qui va être allongé, encore pire que dans une auto-école, forcément. Donc, après, pour revenir, moi, sur les places, parce que le souci, il est là quand même. On parlait tout à l'heure de 350 000 candidats qui peuvent attendre. En fait, je vais essayer d'être clair, mais le problème, il est assez factuel, c'est que nous, on a des droits qui sont acquis. Moi, ça fait 10 ans que j'ai ouvert l'auto-école, et j'ai à peu près une trentaine de places mensuelles qui me sont autorisées. C'est des droits.
Qui vous sont réservés, en fait.
Voilà, normalement, c'est des droits. J'ai une population de référence, pour rentrer dans un terme un peu plus technique, qui est là. Ouais. Donc, j'ai 30 places. À ça vient s'appliquer un coefficient de présence des inspecteurs. Donc ça peut varier forcément l'été en fonction des vacances. Là, ça peut varier en fonction... Nous, on a eu des mutations, il y a des arrêts pour diverses raisons. Donc ce coefficient, là, pour juillet et août, il est de 0,5. Donc c'est pas compliqué. 30 fois 0,5, on arrive avec 15 places par mois, nous, pour notre bureau, enfin nos trois agences, au lieu de 30.
Ah oui, d'accord.
Vous voyez, donc là forcément, que le bouchon...
Et c'est le moment où vous avez le plus de demandes, puisque les jeunes, ils veulent avoir le permis pour pouvoir partir cet été.
Ah ouais, on a plusieurs types de candidats. Moi, j'ai été assez pédagogue avec les parents et les élèves, en leur expliquant qu'on peut passer le permis avant 18 ans, mais là, dans cette période-là, on favorise forcément les gens qui ont 18 ans.
Oui,
les conduites accompagnées peuvent le passer un petit peu avant. Donc là, en cette période, nous, on essaye d'être pédagogue avec eux pour l'expliquer. Donc là, la demande, forcément, elle est forte, parce qu'on a des gens qui en ont besoin pour l'été. On a des gens qui partent en études dans un département autre à la rentrée et qui veulent le passer l'été. Sauf que là, au niveau place, on peut pas inventer les places. On recrute
donc,
pas au niveau de l'État.
Si je comprends bien, si je résume, vous êtes très bon pédagogue, Jérémy. Il y a trop de candidats et pas assez d'examinateurs.
Exactement. Pour moi, le problème, il est là. Et nous, en Bretagne, on a des taux de réussite, parce que j'entendais un syndicat d'inspecteurs parler il n'y a pas longtemps sur une autre antenne, en mettant en avant une formation de moins bonne qualité, avant même de parler du manque d'inspecteurs. Nous, en Bretagne, on a un pourcentage de réussite qui est très bon. Nous, on arrive dans mes différentes agences, entre 70 et 90% de réussite au permis. C'est pour ça qu'on n'a pas un délai qui est énorme. Et encore que, aujourd'hui, au lieu d'avoir 2-3 semaines d'attente pour repasser un examen, parce que l'échec peut arriver pour diverses raisons, on les fait patienter, là, moi, aujourd'hui, et ça fait mal. 2 à 3 mois, on leur annonce 2 à 3 mois d'attente pour repasser un examen. Donc, du coup, là.
2 à 3 mois, c'est franchement, c'est énorme. Jérémy, restez avec nous. Il y a Karen aussi qui souhaiterait s'exprimer, qui est gérante d'une auto-école comme vous, mais qui est un peu plus loin, qui est à Cherbourg. Bonjour, Karen.
Bonjour.
Même constat, j'imagine, que Jérémy.
Même un peu pire, nous, sur la Manche, là, ces derniers temps, où on est sur des délais supérieurs, hein, puisque là, nous, en repassage, on est à 5 à 6 mois d'attente.
6 mois d'attente.
Pour pouvoir repasser l'examen, dû à cette pénurie d'inspecteurs, des postes non renouvelés ou pas immédiatement. Et après le constat, Jérémy a très bien expliqué la situation hein, du procédé des examens du permis. Par conséquent, s'il n'y a pas d'inspecteur, il n'y a pas d'examen.
Donc il faudrait embaucher des inspecteurs.
Faut recruter, oui. Le problème, c'est que sur tous les inspecteurs qui seront reçus au concours d'inspecteurs, tous les postes sont pourvus essentiellement dans les métropoles importantes, puisqu'il y a déjà une grosse pénurie aussi sur ces secteurs-là. Et y a plus de départs en retraite que d'arrivées d'inspecteurs.
Ça veut dire que c'est un métier qui n'attire pas en ce moment ?
bah, ça, c'est un métier, à mon avis, c'est cyclique. Il y a toujours eu des gens pour postuler sur ces postes-là. Après, il faut c'est pas du privé, c'est l'État qui gère le nombre de places d'inspecteurs par département. Donc, si l'État a décidé de faire des coupes pour telle ou telle raison sur tel ou tel département, automatiquement, il n'y aura pas les fonctionnaires.
Mais il y a aussi, dites-moi, il y a aussi le personnel de la Poste qui fait passer des permis, non ?
Non. Là, ça a été fait sur... ça a été privatisé par rapport au code, aux examens du code de la route.
Ah, c'était uniquement Poste, sur le code, d'accord.
La Poste, elle marchait. Et là, on entend aux informations, il y a 29 postiers qui ont suivi une formation pour aider les inspecteurs. 29 sur le territoire national. Donc, il en faudrait 2000, quoi. Mmh.
Jérémy, qu'est-ce que vous en dites ? Vous confirmez ce que dit Karen ?
Oui, tout à fait. Ouais, bah, la Poste, en fait, moi, ça me fait penser à il y a quelques années, pendant la privatisation du code. Je veux pas être parano ou autre, mais en tout cas, j'ai l'impression de revoir un peu le même cinéma avec un manque de moyens donnés parce que les préfectures et la préfecture nous dit dividende. Le délégué n'y peut rien, en fait. Hein. Il a un nombre d'agents et il doit faire avec. Il répartit les places comme il le peut. Maintenant, après, j'ai l'impression qu'on nous pousse à aller vers une privatisation. Et ça aura pas que du bon, là, du coup, au niveau des examens. Les inspecteurs, nous, on en a, sur le terrain, là, au mois de juillet, on en a 8 sur 20, en comptant les vacances, les arrêts, les mutations. On en a 8 pour tout le département d'Ille-et-Vilaine, le 35, pour tous les examens, moto, voiture, poids lourd, etc. Donc, en tout cas, j'aimerais pas être à la place de la préfecture, là, qui gère l'attribution des places, parce que ça, c'est géré département par département.
Oui, et puis, c'est ce que
juste
disait
pour
Karen,
expliquer, en plus, on avait des renforts à une époque, quand il y avait un problème dans un département, parce que c'était assez isolé. Il y a des inspecteurs qui étaient appelés en renfort et qui passaient une semaine dans un département à problème. Sauf que là, maintenant, chacun est dans la même panade. Donc, c'est chacun pour soi et il n'y a plus de renfort. Donc là, on se retrouve
avec
dans une situation...
Avec la réglementation Covid, en fait, il n'y a plus le droit à ce genre de renfort. Les inspecteurs n'ont pas le droit de changer de département.
D'accord. On entend bien, c'est complètement bouché. Et pour l'instant, il y a une pénurie d'inspecteurs et c'est ça qui embouteille tout le système. Merci à vous deux. Merci à vous deux d'avoir témoigné, Jérémy. Karen, c'était extrêmement intéressant. On va finir l'émission, comme on le fait tous les jours, par votre chanson de l'été. Vous nous racontez une chanson sur laquelle vous avez un souvenir particulier. En général, c'est un souvenir heureux, parfois une histoire d'amour. Bonjour Mathéo.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous êtes étudiant en droit dans le Calvados.
C'est ça, exactement, oui.
Alors, qu'avez-vous choisi ?
J'ai pris une chanson peut-être pas commune pour des jeunes étudiants, mais j'ai pris Au sol et mio, une chanson du folklore napolitain.
Oui.
C'est une chanson que je connais depuis que je suis gamin, parce que la moitié de ma famille est italienne, et donc je ne suis pas un été sans partir en Toscane ou en Italie du moins. Et voilà, c'est une chanson qui veut dire beaucoup pour moi. Ça chante le soleil, ça chante le renouveau après la tempête, et moi j'adore ça.
Eh bien, on l'écoute, Mathéo.
Voilà.
Mathéo, quelles sont les images qui vous viennent à l'esprit quand vous entendez cette chanson ?
Ah bah c'est des images d'un petit village en Toscane qui s'appelle Pitigliano, qui est un... Je conseille à tout le monde, tous les auditeurs d'RTL, de taper Pitigliano, P-I-T-I-G-L-I-A-N-O sur Google. C'est un petit village qui est accroché à la montagne en Toscane. C'est des toutes petites ruelles. Vous avez toujours les anciens du village qui jouent à un jeu de cartes. Vous avez une nonne qui est à la fenêtre. Vous avez un chat qui court. C'est un cliché ambulant, mais qui vit. C'est magnifique. On y mange très bien. On y vit encore mieux. Et moi, j'y vais quasiment tous les étés et c'est assez onirique. On n'y croit pas vraiment. C'est les vignes au loin. Enfin, c'est magnifique.
C'est hors du temps, en fait. Hein.
Exactement.
Vous y allez cet été ? Vous y allez, Mathéo, cet été ?
Eh non, il y a mes parents qui m'en envoient des cartes postales, mais cet été, pour des soucis d'études, des alternances qui commencent, enfin bref, des détails pas très glamour, j'en suis empêché, mais dès octobre, j'espère pouvoir y retourner.
Bon, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci en tout cas d'avoir partagé cette chanson avec nous. Merci Mathéo, à bientôt, et vous parlez
merci
tellement
vous.
Bien de la Toscane. Merci à vous tous, merci qui avez participé à cette émission et qui nous avez appelé au 32.